Gracias, por favor.
Nous disons bonjour à tous ceux qui nous suivent via Zoom et tous ceux qui nous rejoignent ici en présentiel. Nous voyons que le COVID a encore commencé à toucher beaucoup de personnes. Et voilà, que le Seigneur soit avec vous dans ces moments de convalescence et dans ces moments de preuve de la maladie. Et toute la semaine, j'ai demandé au Seigneur de me guider dans la parole qui pourrait nous encourager tous en cette période de vacances et aussi pour la préparation de la rentrée, que le Seigneur nous permette, nous encourage et nous donne les forces nécessaires pour aller de l'avant. Et ce verset de 2 Corinthiens 4, versets 1 à 6, m'a particulièrement marqué. Et dans ce verset, le thème principal, c'est « Ne perdons pas courage. » Ne perdons pas courage. Je ne sais pas quel est l'état de ta situation aujourd'hui, de ta vie, dans ton foyer, dans ton lieu de travail, ou même peut-être dans ton église, ou partout où tu te trouves. Est-ce que actuellement tu es découragé? Est-ce que actuellement tu es abattu? Est-ce que actuellement tu te poses des questions? Oui, il y a des moments où on peut effectivement se poser des questions. Comme le verset que Denis nous a dit tout à l'heure, il pose la question, si Dieu est avec nous, de qui aurait peur? Cette question est très importante et la réponse aussi est précieuse. Parce que c'est des moments difficiles que Paul traversait et il traversait l'adversité, le conflit et de ses détracteurs. Et il se posait cette question-là. Si Dieu est avec moi, de qui aurais-je peur? Mes frères et sœurs, si Dieu est avec nous, de qui aurons-nous peur? Cette situation, nous allons essayer d'analyser et essayer d'apporter des éléments de réconfort, des éléments d'encouragement pour tenir ferme et encourager dans notre foi durant cette période. 2 Corinthiens 4, versets 1 à 6. Dieu, dans sa bonté, nous a confié ce service. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Nous avons rejeté les moyens malhonnêtes qu'on utilise en se cachant. Nous agissons honnêtement et nous ne déformons pas la parole de Dieu. Au contraire, nous montrons clairement la vérité et ainsi nous faisons appel à la conscience de tous devant Dieu. Pourtant, notre bonne nouvelle reste cachée pour certains, pour ceux qui se perdent, qui perdent leur vie loin de Dieu et qui ne croient pas. Le Dieu mauvais de ce monde a rendu leur intelligence aveugle. Alors, ils ne voient pas briller la lumière qui est dans la bonne nouvelle. C'est la lumière de la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Non, ce que nous annonçons, ce n'est pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ le Seigneur. Et nous, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Dieu a dit que la lumière brille au milieu de l'obscurité. Et c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs. Il a voulu nous éclairer en nous faisant connaître sa gloire qui brille sur le visage du Christ. Amen. Amen. Quelqu'un disait que nous souhaitons tous que dans l'Église soit une havre de paix où on peut retrouver réconfort, la joie, la tranquillité. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, il y a ce qu'on dit entre guillemets des gens à problème. même si tu ne cherches pas de problème, ces personnes sont capables de te susciter des problèmes. Et donc, on est obligé de gérer, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le monde, au lieu du travail, dans les familles, il y a toujours quelqu'un qui va essayer de chercher la bête, la petite bête qui ne va pas, et à partir de là, chercher à faire des soucis. Et dans le monde psychologique, dans le domaine psychologique, on dit que les personnes peuvent affronter les conflits de quatre manières. Soit l'évitement, tu essaies d'éviter, non, je ne fais pas partie, moi je suis dans mon coin, et j'essaie de tout faire pour ne pas être dedans. Soit la dénégation, c'est-à-dire le problème n'existe pas, en fait. Je n'ai pas de problème avec mes collègues. Je n'ai pas de problème avec ma femme. Je n'ai pas de problème avec ma famille. Soit la troisième, c'est la démission. On démissionne, on quitte sa position pour amener le calme, pour dire non. Mais le problème, c'est que si tu démissionnes de ton poste ou de ta position, si réellement ce n'est pas le cas, le problème restera toujours là. Le problème reviendra sûrement. Et la quatrième réponse, c'est une réponse autoritaire ou oppressive. Et dans les cas, vous voyez, dans les conflits, des réponses comme ça sont prêtes à donner une réponse autoritaire ou oppressive. Mais dans les cas de figure, dans le monde psychologique, la plus importante de la position à tenir, c'est de rechercher toujours une solution appropriée. Et nous voyons dans le texte que nous avons lu, Paul est en train de rechercher une solution appropriée. Il n'essaie pas d'éviter, de dire non, j'évite parce qu'il n'y a pas de problème à Corinthe. Tout est bien, il y a la paix, il y a la joie, tout le monde est satisfait. Paul n'essaie pas de nier le problème. Paul n'essaie pas de démissionner non plus. Il n'essaie pas de donner une réponse autoritaire ou oppressive à ses détracteurs ou au niveau de l'Église. Il a pris la voie la plus juste, c'est-à-dire rechercher une solution appropriée selon ce que la parole de Dieu recommande. Dans tout le chapitre 4, Paul parle de la manière dont le chrétien devrait tenir dans les temps de conflit. Ne pas perdre courage est l'un des éléments essentiels d'une attitude convenable. Ne pas perdre courage. Facilement, on peut perdre courage. On peut se dire, c'est trop grand pour moi, c'est trop difficile pour moi. Et je suis abattu et je rentre dans toutes les trois positions qui peuvent être citées. En effet, la situation de Paul présentait de multiples raisons de baisser les bras. Mais il ne renonçait pas. Paul était dans une situation difficile, comme nous avons lu le Romains 8. On dit, quel cas pourrait me séparer de l'amour de Dieu? La faim, la nudité, les anges, le ciel, tout, rien ne pourra nous séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Cela veut dire que Paul ne baisse pas les bras. Il sait qu'il y a des soucis, il y a des problèmes, mais il va les affronter avec une bonne manière et une bonne attitude. Nous pourrions nous demander qu'est-ce qui l'empêchait de se décourager devant les conflits de la vie. Nous parlons de la parole ou dans l'Église où il y a des situations difficiles à gérer, mais ça peut être dans la vie tout court. Dans la vie, que ce soit dans nos familles ou au travail, nous avons, malgré nous, souvent des situations dont on doit faire face. L'une des raisons est que Paul savait ce qu'il avait en Jésus. Ça, c'est un élément important. Savoir ce que tu as en Jésus, ce que tu es en Jésus. Et deuxièmement aussi, au lieu de s'apitoyer sur ce qui lui faisait défaut, Paul se réjouissait de ce qu'il possédait déjà en Christ. Paul pouvait passer tout son temps à s'apitoyer, à s'alarmer. Oh là là, pourquoi je me suis engagé à annoncer l'évangile? Regarde qu'est-ce que je rencontre. J'étais bien quand j'étais dans le Sanhédrin. J'étais mieux placé et j'étais chef au niveau du judaïsme. Mais je viens dans l'église et je deviens le détracteur des faux docteurs et même certains même de l'église qu'ils pouvaient entraîner avec eux. Trois questions pour nous. Devant des situations pareilles, que faisons-nous? Quelle est notre réaction d'une manière psychologique et aussi d'une manière dans la parole de Dieu, c'est surtout dans la parole de Dieu qui est important. Personnellement, j'aime éviter les problèmes. Je suis naturellement quelqu'un qui évite les problèmes. Parce que je vois vite venir les problèmes et j'essaie tout de travailler pour éviter ces problèmes-là. Et un jour, le Seigneur m'a laissé comprendre, en fait, tu ne peux pas être un serviteur convaincu et qui va de l'avant en voulant à tout prix éviter les problèmes. Les problèmes font partie de ta croissance, de ta maturité, de ton audace et de tes convictions. Et là, si tu veux les éviter, ça veut dire que tu veux éviter de grandir, tu veux éviter de croître, tu veux éviter d'aller de l'avant. Je ne sais pas à quel niveau vous vous placez. Peut-être vous aimeriez éviter comme moi. Peut-être vous niez les problèmes, ils n'existent pas, c'est bon. Ou peut-être vous démissionnez dès qu'il y a un problème, allez, je me retire. Je me replie sur moi-même, comme ça j'évite tous les problèmes. Ou je vous donne peut-être souvent des réponses autoritaires, oppressives. C'est moi le chef ici et je rabats tout le monde. Ou peut-être véritablement, nous sommes invités, chacun de nous, ce matin, à suivre la voix de Dieu, à suivre ce que la parole de Dieu nous conseille. D'abord, le courage. Devant les situations compliquées, complexes, avoir le courage. Et si nous ne sommes pas dans cette attitude, rapidement, on peut tout abandonner, tout plaquer. Et ce n'est pas ce que le Seigneur souhaite pour ses enfants. Nous voyons dans les conflits en Ukraine, nous voyons dans les conflits aussi dans tous les pays qui sont touchés, le courage est la meilleure attitude face à des conflits. Parce que je suivais un reportage et la famille était très bien dans le sous-sol. J'avais un sous-sol équipé, il y avait tout dans le sous-sol. Et un jour, le monsieur est paniqué et il a dit non, il faut qu'on parte. Il faut qu'on parte ici parce qu'on a annoncé que les Russes sont en train de venir et ils rentrent dans la ville. Et il faut qu'on sorte. Et madame a dit, ne sortons pas, restons là, même s'ils arrivent, de toute façon, on est là et peut-être on aura la vie sauve. Malheureusement, le Messie a toujours raison. Il a fait sortir sa famille dans la rue. Je ne sais pas si c'est Dieu qui a voulu ou si c'est pas Dieu ne veut pas la mort des personnes. Mais ils ont été touchés par un ovni qui tombait juste là dans la rue avec leurs sacs, avec leurs petites affaires. Et il y a une seule personne qui est restée dans la famille. Et là, je me pose la question, est-ce que s'ils avaient eu le courage de dire « oui, nous restons dans le sous-sol parce qu'on avait préparé tout pour cette circonstance », peut-être ils n'auraient pas eu cette rencontre, cette oubli qui les a anéantis. Souvent, le manque de courage peut nous créer plus de problèmes que des solutions. Paul le savait, le service est un privilège glorieux. Il avait un regard aussi positif. Paul savait que son ministère apportait de la vie et la transformation. Il savait aussi pertinemment que c'est un don reçu de Dieu, par grâce et non grâce à notre identité, à son identité ou à ses actes. C'est là qu'il faut avoir le côté, avoir un regard positif. Le regard positif nous permet de voir le verre à moitié plein, au lieu de regarder le verre à moitié vide. Si on regarde le verre à moitié vide, on aura toujours des raisons de se plaindre. Il y a ceci qui ne va pas, il y a ceci que je n'ai pas, il y a ceci que je n'ai pas eu. Et finalement, on devient aigri. Et en fait, on devient une personne d'une manière qui ne peut pas vivre sans tension interne. 1 Timothée 1, versets 12 à 17 nous dit « Je remercie le Christ Jésus, notre Seigneur. Il m'a jugé digne de confiance en me prenant à son service et il m'a donné la force nécessaire. Pourtant, avant, je l'avais insulté, je l'avais fait souffrir, j'avais été violent. Mais Dieu a eu pitié de moi. J'agissais ainsi sans savoir ce que je faisais. » Paul voyait ça. Quel privilège! Moi qui ai insulté le Seigneur, qui a combattu les chrétiens à mort, emprisonner certains. Et le Seigneur me donne cette possibilité de les servir. Et donc, Paul voyait le côté positif, le privilège qu'il a reçu pour servir le Seigneur. Et non, ce qui ne va pas. Il ne prenait pas le temps pour dire, mais pourquoi on m'a battu 9 fois multiplié par 9? Pourquoi on m'a fait sortir du mirail pour échapper à la mort? Mais il voyait toujours le côté positif. La manière dont vous envisagez votre service contribue à déterminer aussi la manière dont vous l'assumez. Si réellement le Seigneur vous a appelé dans l'Église ici, si nous sommes là ici et que c'est lui qui nous a appelés, soyons convaincus qu'il nous donne aussi les moyens, il nous équipe pour l'honorer et pour assumer le service et les responsabilités. Paul est submergé par la grâce et la miséricorde de Dieu. Ainsi, son attitude avait aussi des conséquences pratiques dans sa vie et dans l'Église. Si Paul tenait compte simplement de ce qui l'arrivait, les difficultés qu'il traversait, peut-être il n'aurait pas pu servir, pu écrire tout ce que nous lisons aujourd'hui. Tous les épîtres que nous lisons aujourd'hui, c'est énorme. Mais il tenait compte que c'est juste par grâce. Il est rempli de reconnaissance. Est-ce que dans l'Église, nous sommes remplis de reconnaissance? Dieu nous a sauvés. Il nous a permis de venir. Il nous a mis dans son Église, il nous a placés dans son Église pour son service. Mais est-ce qu'il y a des moments où nous pouvons dire merci Seigneur de m'avoir permis d'être là? Merci Seigneur de m'avoir placé ici, dans cette Église, Tu ne m'as pas placé ailleurs, mais tu m'as conduit vers cette église pour être à ton service. Et cela contribue à notre force pour résister, même quand des moments sont difficiles. C'est cette attitude qui empêchait Paul de baisser les bras, parce qu'il ne voyait pas ce qui n'allait pas toujours, mais il voyait toujours ce que Dieu a fait. Dieu m'a sauvé, malgré que j'étais un détracteur farouche de l'évangile. Dieu m'a fait grâce, et donc moi aussi, je dois être rempli de reconnaissance et de grâce envers l'Église. Oui, frères et sœurs chrétiens, nous voulons nous faire connaître, vous faire connaître ceci. Dans la province d'Asie, nous avons supporté les grandes souffrances. Leur poids était très lourd. Il a dépassé nos forces. Nous avons même cru mourir. Nous étions sûrs d'être condamnés à mort. Ainsi, nous ne pouvions plus mettre notre confiance en nous-mêmes. Nous devions mettre notre confiance en Dieu. Amen. Quand je lis cette parole, ça me touche énormément. Le grand Paul, apôtre de Jésus-Christ, dit que nous avons souffert, et même la souffrance était tellement lourde que j'ai dû croire que ça dépassait ma force physique. Humainement parlant, ça me dépasse. Mais c'est pour que je ne m'appuie pas sur moi-même. C'est pour que je puisse faire confiance en Dieu, par la force de Dieu seulement. Est-ce que ce matin, tu t'appuies sur ton intelligence, ta capacité de résoudre les problèmes, ton expérience, ta foi, ta bonne volonté, ton service, tes connaissances, ta bonne position sociale ou au niveau de l'Église? Si c'est cela, le Seigneur veut que nous ne nous appuyions pas sur ces choses-là, parce qu'elles peuvent nous écarter réellement de ce qui est juste et de ce qui peut faire la force de notre foi. Le Seigneur veut que nous nous appuyions sur lui seulement. Paul a contribué à éclairer cela parce qu'il avait tout. Il avait tout. L'expérience, les dons, le ministère. Mais il a dit, l'épreuve a contribué à m'ouvrir les yeux que je ne dois pas m'appuyer sur ça. Il doit m'appuyer sur Dieu et Dieu seul. Désolé, la voix qui est toujours cassée depuis le samedi dernier. Donc, si ce matin nous sommes là, nous pouvons nous poser la question, est-ce que je m'appuie sur moi-même? Est-ce que je m'appuie sur moi-même? Où je m'appuie sur Dieu, au niveau de l'Église, au niveau de mon travail. Est-ce que moi, je ne m'appuie pas sur mes compétences? Yes! C'est moi le plus compétent dans ma boîte. S'il y a des gros problèmes à résoudre, c'est moi qu'on appelle. Ah oui, ça peut être bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais c'est risqué. Appuyons-nous sur Dieu. Si le Seigneur a permis que nous soyons celui qu'on appelle pour résoudre les gros problèmes dans notre famille, dans notre église ou dans notre lieu de travail, nous devons vraiment nous appuyer sur Dieu et sur Dieu lui seul. C'est ce que Paul a fait. Un regard positif. Troisième élément important par rapport à Paul qui nous transmet aujourd'hui les bonnes attitudes à travers la parole, c'est la vérité. Premièrement, c'était le courage. Deuxièmement, c'était un regard positif. Et troisièmement, c'est de demeurer dans la vérité. Paul savait vraiment qu'il est dans la vérité. C'est pourquoi il a posé la question, si Dieu est avec nous, qui peut s'élever contre nous? S'il y a un conflit ou une situation difficile, pose-toi la question, posons-nous la question, est-ce que je suis dans la vérité? Si je ne suis pas dans la vérité, quel que soit ce que je peux ou ce que je suis, je dois faire ralentir, marcher en arrière. Paul rejette tous les procédés indignes, la manipulation ou la tromperie. Il dit, nous ne sommes pas dedans. Nous nous appuyons exclusivement sur la vérité de l'Évangile. Et s'il y a des difficultés, nous nous référons à la vérité de l'Évangile. Pas à ce que les hommes ou les uns ou les autres veulent, mais qu'est-ce que Dieu veut face à cette situation? Qu'est-ce que Dieu dit face au conflit ou aux difficultés ou aux problèmes ou aux soucis que je rencontre dans mon lieu de travail ou dans ma famille? Et c'est là le fait de se poser cette question pour rechercher la vérité de Dieu va nous aider à tenir ferme. Paul affirme tout simplement qu'il n'a rien caché, ni dans sa vie personnelle, ni dans son service. Si Paul et son ministère est rejeté, c'est tout simplement ses détracteurs qui sont voilés. Parce que Paul était convaincu que son ministère est reçu de Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé d'une manière évidente. C'est Dieu qui lui a confié le ministère envers les païens. Et c'est Dieu qui lui a dit, vas-y, je suis avec toi. Et maintenant, face à ces détracteurs, c'est-à-dire ceux qui veulent mettre le judaïsme en avant dans l'Église, voulait dire Paul, elle n'est pas du tout dans la raison, dans la vérité. C'est nous qui avons la vérité. Et Paul restait vraiment évident sur la vérité. Il disait ceci dans 2 Corinthiens 3, versets 14 à 16. Mais leur intelligence s'est fermée jusqu'à aujourd'hui. Quand ils lisent les livres de l'ancienne alliance, le même voile est encore là. Le voile qui empêche de voir la vérité. Souvent, nous pouvons avoir une intelligence obscurcie et prenant cette une réalité pour dire que c'est une vérité, alors que ce n'est pas une vérité. Paul posait la question, est-ce que réellement il voit l'Évangile comme le Seigneur veut voir, comme le Seigneur a dit? Non. Les détracteurs jouent en faveur de l'ennemi. Et s'il y a toujours des conflits, des difficultés, souvent c'est l'ennemi qui en profite. Regardez bien dans votre famille, dans votre foyer, dans votre lieu de travail, s'il y a des conflits et des difficultés, c'est l'ennemi qui rigole. Parce qu'il voit les déchirures, il voit les cœurs brisés, il voit les difficultés qui vont se produire, se jaillir. Et lui, il profite parce qu'il n'aime pas la lumière, il n'aime pas la paix, il n'aime pas vraiment que les choses fonctionnent comme Dieu veut. Maintenant, Dieu va juger ce monde et maintenant, il va jeter dehors le chef mauvais de ce monde, nous dit Jean 12, verset 31. Le même chef mauvais de ce monde, c'est le diable. Il ne veut pas qu'il y ait la paix. Et tous les conflits que nous voyons s'ouvrir dans notre monde et partout, l'ennemi en profite pleinement. Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait la paix dans le monde. Et c'est la même chose aussi en plus dans l'Église. Quand l'ennemi voit une Église en paix, parce qu'ils voient que l'évangile va se propager. Voyez les témoignages qui sortent. Chacun a pu témoigner, son voisin, son ami, son collègue de service. Il y a l'enthousiasme de servir et de témoigner l'évangile. L'ennemi est farouche contre ça. Il faut les mettre dans la bouillabaisse du conflit. Comme ça, ils n'auront même pas la tête de témoigner. Ils vont toujours avoir la tête de leurs problèmes, de leurs situations difficiles. Mes amis, j'aimerais nous interpeller. Ne nous laissons pas avoir. Gardons ces réalités en face et essayons d'avoir les bonnes attitudes quand il y a des soucis et des problèmes au sein de nos communautés. Malheureusement, ces procédés indignes sont dans nos églises et méritent d'être dévoilés et dénoncés. Paul a dénoncé ce qu'il y a à Corinthe. Il a dit qu'ils ont des procédés malhonnêtes, des procédés indignes, et il faut les dénoncer afin qu'ils puissent abandonner ces angles d'action au sein de l'Église qui peut entraîner l'Église dans les divisions et dans les conflits. La quatrième attitude à tenir, c'est l'humilité. Quand tu as le courage pour faire face, ensuite tu as un regard positif face à la situation et tu as la vérité, tu t'appuies sur la vérité de l'évangile. Il faut donc avoir maintenant ce quatrième élément, cette quatrième attitude, c'est-à-dire l'humilité. Le service est accompli dans l'humilité. Paul avait au fond de lui toujours les regards, est-ce que je suis dans l'humilité? L'attitude de Paul face à son service dans l'Église l'empêchait non seulement de baisser les bras ou de tromper, mais aussi l'empêchait de se vanter. Paul essaie de ne pas se vanter. S'il y a lieu de se vanter, Paul dit, c'est de se vanter de la vérité de l'Évangile. Ça, il dit, si je veux me vanter, je vais me vanter à cause de l'Évangile, mais pas pour moi-même ou de ce que je suis ou de ce que je connais. Non, ce n'est ce que nous annonçons, ce n'est pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ, le Seigneur. Et nous, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Dieu a dit que la lumière brille au milieu de l'obscurité et c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs. Il a voulu nous éclairer en nous faisant connaître sa gloire qui brille sur le visage du Christ. Restez dans l'humilité. Et souvent l'orgueil, et c'est ça qui détruit souvent la paix des communautés de l'Église. L'orgueil, se vanter. Et souvent même, l'orgueil est source de tensions, de difficultés, parce qu'on voit l'autre, non, il n'est pas bien à sa place. L'autre, il n'est pas mieux. C'est moi qui est mieux. Ou l'autre, il ne fait pas bien son service. Et Paul ici dit, non, c'est Christ seul. Nous voulons honorer, nous voulons élever. C'est Christ seul, nous voulons servir. Ayons cela en tête. Au sein de l'Église, il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur. Nous sommes tous des bras cassés. Que Dieu a fait grâce et a amené au sein de l'Église et veut travailler pour que nous puissions aller de l'avant. Si le Seigneur a placé quelque chose de meilleur en nous, c'est son esprit de grâce, afin que nous puissions avoir la capacité de servir correctement, dignement, répondre aux besoins et à l'exigence de l'évangile de la parole, mais pas du tout parce que nous sommes meilleurs. Si le Seigneur, j'aime dire souvent, si le Seigneur cherchait des personnes meilleures pour son Église, des personnes parfaites, des personnes qui n'ont aucun défaut, qui n'ont aucune chose à dire, je pense qu'il va avoir, il va parcourir la terre pour les chercher. Et il n'y en a même pas. Il a dit, il n'y a aucune personne, il n'y a aucun juste sur la terre. Tous sont des pécheurs. Mais si nous sommes là, nous sommes des pécheurs justifiés, rachetés par sa grâce. L'humilité nous permet de voir les autres, même s'ils ne sont pas efficaces comme nous voulons, même s'ils ne sont pas tout à fait, ils n'accomplissent pas leur ministère ou leur service comme Dieu, comme nous souhaitons, mais que nous avons que en réalité, c'est Dieu qui les a appelés. C'est Dieu qui les a placés. Et moi, si Dieu dit oui, moi aussi j'ai dit oui. Amen. C'est ce que Pierre a dit quand il était dans la vision et il voyait une corbeille remplie, un panier rempli de rats, de serpents, comment on peut dire encore, des marguillards peut-être, pour ceux qui connaissent, des souris, descendre. Et le Seigneur lui dit, Pierre, tu as faim, lève-toi et mange. Et Pierre dit, non, Seigneur, depuis ma naissance, ma jeunesse jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais mangé des choses impures comme ça. Et le Seigneur lui dit, si moi je dis que c'est impur, c'est pur, c'est que c'est pur. Et Pierre s'est levé. Il n'a pas besoin de discuter. Il a mangé tranquillement. Et il a bu de l'eau. Et il a dit, voilà, ce que le Seigneur a dit que c'est pur, vraiment c'est pur. Amen. Si le Seigneur déclare une personne juste, une personne que lui, il a rachetée d'un grand prix, il a placé dans son église, de quel droit j'ai pour dire que la personne n'est pas à sa place, n'est pas légitime. J'aimerais vraiment que nous puissions nous démarquer de tout comportement et de toute attitude qui n'est pas vraiment de l'attitude de l'humilité. Paul ne cherchait pas à constituer un fan club et de tirer profit des pauvres esprits, comme le dit 1 Timothée 5, 22. Ne presse pas de poser les mains sur la tête de quelqu'un. Ne participe pas au péché des autres. Toi-même, garde-toi pur. Aujourd'hui, même dans les églises, il y a des fan clubs. C'est dommage. C'est comme dans le sport. Chacun constitue les fan clubs, même si celui qu'il supporte est mauvais, on le supporte quand même. Même s'il est dans quelque chose qui n'est pas bien, on le supporte quand même. Et là, dans l'église, Paul ne cherchait pas cela. Paul cherchait simplement de garder l'humilité, la vérité, un regard positif et dans le courage que lui donne le Seigneur. Paul avait cette belle attitude de laisser la lumière de Christ briller en lui et dans son service. Chers amis, j'aimerais nous inviter à passer ces périodes de vacances avec ces belles quatre attitudes d'exemple. Parce que dans nos familles, dans nos foyers, dans nos communautés respectives, il peut y avoir des soucis comme ça. Mais si on a ces quatre attitudes, comme donne l'exemple de Paul, nous pouvons faire face avec victoire, avec courage. Les quatre belles attitudes, est-ce que vous pouvez me les rappeler? Comme ça, je suis sûr que en septembre, on se retrouve pour ceux qui vont partir bientôt, on se retrouvera avec de belles quatre attitudes remplies dans le cœur et remplies aussi dans nos convictions. Les quatre belles attitudes. Le courage. Amen. Soyez courageux. Ne fuyez pas devant les conflits. L'évitement. Amen. Ensuite, regard positif. Regardez toujours le verre à moitié plein. Voilà. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a mis dans Marie-Madeleine que j'apprécie? Voici, elle a donné des poèmes. Ah, quelle belle qualité. Seigneur a amené à l'église une poète de l'évangile qui va transformer les choses de l'évangile en une aussi quelque chose de positif. Regardons les uns les autres à moitié plein. À moitié plein. Ensuite, la vérité, n'oublions pas de marcher dans la vérité, de nous appuyer sur la parole, pas sur les on-dit, pas sur un tel est comme ça, il est comme ça, il a fait comme ça, il a fait. Non! Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que Jésus veut pour moi et dans cette situation? Paul veillait pour demeurer dans la vérité de la parole de Dieu. Et la quatrième, l'humilité. En dessous de tous les trois, là, le courage, le regard positif, la vérité, revêtir de l'humilité. Même si tu as raison, revêt-toi de l'humilité. Ne pousse pas, ah, c'est moi qui ai raison, bon, je lui rentre dedans. Non, garde toujours l'humilité en face, quelles que soient les situations. Paul veillait pour demeurer dans une attitude humble. Il ne se vantait pas. Il gardait cette direction de l'humilité. Nous allons lire ce verset pour terminer. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Merci pour votre contribution avec ces quatre attitudes que nous pouvons méditer chaque fois. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons jamais courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle jour en jour, de jour en jour. La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante qu'elle nous prépare. Amen. C'est pourquoi nous ne perdons jamais courage. Ma sœur, mon frère, ne perds jamais courage. Courage dans ton service, dans ton ministère, courage dans ton foyer, courage dans ton lieu de service, dans ton travail, courage aussi dans ta famille. Oui, courage, parce que le Seigneur prépare de belles choses pour toi, pour ton foyer et aussi pour ta communauté. Prions. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous donnes. Oui, Paul avait une belle attitude qui l'accompagnait dans son ministère. Oui, nous aurons souhaité qu'il n'y ait pas de soucis, de problèmes dans tous les lieux de vie que nous avons, dans nos foyers, dans nos familles et aussi peut-être dans nos lieux de travail et particulièrement dans l'église. Seigneur, mais ce que Paul a traversé nous laisse voir que sur terre, le péché a tout désorganisé, désordonné. Et souvent, nous sommes, malgré nous, oui, nous sommes malgré nous, souvent, dans des situations de soucis, de conflits, de discussions et souvent des choses, oui, qui même va vers la division. Seigneur, mais ta volonté est que nous nous examinions nous-mêmes, que chacun puisse s'examiner comme Paul qui avait ses belles attitudes, ses quatre belles attitudes. Oui, il avait le courage, il ne fuyait pas les difficultés. Il avait aussi un beau regard, un regard positif face à la situation. Il avait la vérité de l'Évangile à ses pieds, dans son cœur et dans ses mains, afin de les utiliser d'une manière juste, selon ce que tu veux. Oui, Paul répétait au-dessus de tout l'humilité qui le caractérisait. Seigneur, malgré les insultes, les railleries, oui, les moqueries, Paul ne remettait pas mot pour mot, mais il voyait ce qui est positif en toutes choses et il gardait les pieds sur terre, car il est à ton service et il veut te ressembler. Seigneur, ce matin, nous voulons te ressembler. Si ces quatre éléments d'attitude ne sont pas en nous, Seigneur, aide-nous à les développer, oui, maintenant, parce que tu veux qu'à chaque circonstance, nous puissions avoir de belles attitudes pour faire face. Donne-nous le courage, Seigneur. Équipe-nous de courage. Ne nous laisse pas être des fuyards qui fuient en cas de difficulté, de moindre difficulté, qui baissent les bras. Seigneur, donne-nous, Éternel, d'avoir un regard positif pour être de ceux qui encouragent au lieu de ceux qui critiquent, de ceux qui disent les mauvaises choses sur les autres. Mais aide-nous à voir le côté positif des personnes qui nous entourent. Oui, les personnes qui nous entourent ont des qualités, de belles qualités. Et laisse-nous voir ces qualités et de voir seulement que ces qualités. Seigneur, s'il y a des côtés, oui, qui ne sont pas de notre, oui, qui ne sont pas réellement de qualité, aide-nous à les prendre aussi avec une belle attitude positive. Seigneur, qui reconnaît que nous sommes tous des bras cassés et Dieu nous a fait grâce afin de nous utiliser pour son royaume et pour sa gloire. Seigneur, aide-nous et remplis-nous de ta vérité. La vérité qui est ta parole ne permet pas que nous puissions affronter les difficultés, les soucis avec nos propres forces, nos propres manières de faire, comme les judéisants le faisaient, avec la manipulation, la rhétorique et même aussi des mensonges déguisés, se cacher derrière certaines choses culturelles pour dire des choses qui ne sont pas exactes. Seigneur, aide-nous à garder les pieds, les mains, les cœurs, notre être entièrement consacré à ta vérité et rien que ta vérité, que nous puissions vivre pleinement, conscients que toi, tu es la vérité, la vie, et tu donnes l'éternité pour tes enfants. Seigneur, merci de ton humilité, qui est un exemple par excellence. Seigneur, révèle-nous d'humilité. Seigneur, casse en moi, en nous, tout ce qui n'est pas d'ordre de l'humilité, et permets que je puisse garder l'humilité devant toi, devant ton Église et devant ton peuple. Seigneur, aide chacun de nous à cultiver cette belle attitude de l'humilité, même si nous avons raison, même si nous voyons que nous sommes dans la vérité, même si nous savons que nous avons un beau regard, et même si nous savons, Éternel, que nous avons le courage, aide-nous à nous revêtir par-dessus tout de l'humilité, qui est le lien de la paix, le lien de la, oui, de la joie, le lien, Seigneur, du pardon, du renoncement. Et merci pour ce que tu fais pour ton Église. Bénis ton Église durant cette période estivale. Permet que chacun puisse cultiver ses belles attitudes et que nous puissions nous retrouver ensemble en septembre, oui, dans la joie. Ce qui reste en juillet, août, ici dans ton Église, garde chacun. Permet que nous puissions vivre pleinement, Seigneur, ce que tu veux pour ton Église. Et que ton Église puisse avoir la voix, les moyens pour témoigner, comme nous avons entendu ce matin, des uns les autres qui témoignent sans zèle, avec joie, avec enthousiasme, à leurs voisins, à leurs collègues. Quelle joie de voir que, Seigneur, tu veux bénir encore ton Église et tu veux remplir ton Église, Seigneur, de cette belle attitude de témoignage pour ta gloire. Que ton nom soit béni et honoré. C'est dans le nom de Jésus. Amen. Amen.